Merci beaucoup. Donc vous avez tous entendu que je travaille également pour la police, puisque je fais installer des mouchards dans les bouteilles de médicaments pour vérifier que les gens prennent. Enfin, vous verrez ce que c'est. C'est assez amusant, en fait. C'est un outil dont on s'est beaucoup servi il y a quelques années. Voilà. Donc, un grand merci aux organisateurs de me faire l'honneur de m'inviter ici, dans cet endroit prestigieux, pour vous parler un petit peu de ce que nous faisons spécifiquement à Lyon dans le suivi du médicament et en particulier à l'ère de ce qu'on appelle le big data, donc les grandes bases de données. Vous savez que notre ministre bien-aimé est occupé à faire passer en force des articles de loi qui comprennent entre autres les procédures d'accès à ces données. Donc c'est vraiment un sujet, un hot topic, c'est vraiment quelque chose qui est très, très chaud. Et si ça vous intéresse, on pourra en discuter tout à l'heure. Il y a un grand combat entre les chercheurs et le ministre, une fois de plus, pour que ces accès soient plus faciles. Et la ministre, pour des raisons pas nécessairement très bonnes, préfère que ce soit très restreint. Voilà. Donc quelques mots sur la pharmaco-épidémiologie et la petite équipe lyonnaise qui bosse là-dedans. Quelques mots sur l'adhésion avant le big data, donc c'est ce que Nicolas vient de rappeler. Là, c'est les mouchards qu'on utilisait in illo tempore pour vérifier les prises des traitements. Quelques mots sur l'arrivée du big data et puis l'impact potentiel du big data sur le suivi et l'évaluation de l'adhésion des patients au traitement. Donc, à Lyon, vous avez la chance d'avoir une équipe de pharmaco-épidémiologie. Non, il n'y en a pas beaucoup en France, on est trois. Donc voilà, on est une espèce en voie d'apparition, de disparition, je ne sais trop. Donc la pharmaco-épi, c'est quoi? C'est l'application des connaissances et techniques épidémio-classiques pour étudier ce qu'on appelle l'exposition aux médicaments et les effets des médicaments en conditions réelles dans de grandes populations, donc dans les populations post-AMM. Donc usage et effet dans des grandes populations, donc par opposition entre guillemets à tout ce qui se passe dans l'essai clinique contrôlé, randomisé, double aveugle, qui est utilisé pour définir les effets promis, espérés entre guillemets du médicament en pré-AMM, donc avant la mise sur le marché. Ici on est vraiment dans le post-AMM, donc tout ce qui se passe une fois que le médicament arrive dans la jungle de la santé française. Vous savez, vous avez tous compris qu'en France, on aime bien manger des médicaments, on aime bien manger en général, on aime bien boire, on aime bien faire beaucoup de bonnes choses, parfois des choses plus discutables, comme un goût immodéré pour les médicaments. Et par définition, si beaucoup de gens prennent des médicaments, il peut se passer un usage inadéquat. Il est peu probable que si 80-90% de la population utilise les médicaments, ce soit toujours de manière parfaite, rationnelle. Et donc, effectivement, on a en France, on peut déjà fournir la réponse, on a un usage assez régulièrement inadéquat du médicament, une surconsommation, une sous-consommation à mésusage. Et ces problèmes peuvent entraîner des conséquences, à la fois sur le plan clinique et économique. Vous aurez quelques exemples tout à l'heure. Et donc, la pharmaco-épi, c'est quoi? C'est l'épidémiologie du médicament. Donc, on vérifie la consommation et les effets du médicament, donc les effets positifs et les effets négatifs, en conditions généralement observationnelles. Donc pas toujours, il arrive régulièrement, ça ce serait peut-être un jour un sujet intéressant à discuter, qu'on doive recourir à l'essai clinique contrôlé, randomisé, double aveugle pour franchir un obstacle. C'est comme les saumons qui montent la rivière. De temps en temps, il y a un petit saut qu'il faut faire. Et il y a de temps en temps des questions de recherche qu'on ne peut résoudre que par l'essai clinique. Voilà. Donc il ne faut certainement pas opposer médecine interventionnelle et médecine observationnelle. Ce sont deux médecines, deux approches très complémentaires. Mais majoritairement, en pharmaco-épi, on se sert des approches observationnelles. Donc à Lyon, on existe depuis 15 ans. On est rattaché au CHU, on est rattaché à l'université. On fait beaucoup de recherches, on fait un peu d'enseignement. On a pas mal de projets propres et on a pas mal de projets externes. Donc on est une équipe un peu autofinancée, avec des financements qui viennent un peu partout. On a un gros projet européen, on a des projets avec la CNAM, l'assurance maladie, on a des projets avec les laboratoires pharmaceutiques, enfin on bosse avec pas mal de monde. Mais ce qui caractérise l'ensemble de nos projets, c'est à la fois le côté pluridisciplinaire et le fait que nous avons résolument décidé de nous engager dans une optique de qualité des soins. Donc c'est peut-être ce qui rejoignait ce que tu évoquais tout à l'heure, l'équipe ESPER qui a priori sera très orientée qualité des soins. Voilà. Et donc la pharmaco-épi, pour être très général, c'est pour moi et pour les gens qui l'ont un petit peu lancé essentiellement en Amérique du Nord, dans les années 80, on va dire, il y a une trentaine d'années. C'est vraiment un pont, c'est une science pont, a bridge science, entre les soins primaires, les spécialités de médecine interne qui s'orientent vers les populations dites fragiles, les enfants, les personnes âgées, les dames enceintes, la pharmaco, l'épidémie de santé publique, les statistiques et l'informatique. On se sert énormément d'outils informatiques. On a des grandes bases, comme vous le verrez, et les statistiques, la sociologie, la psychologie, l'économie de la santé, j'en passe et des meilleurs. Donc on a vraiment besoin souvent pour nos études de recourir à l'ensemble de ces compétences pour avoir une efficacité suffisante. La pharmacoépidémiologie n'est pas la pharmacovigilance. PV, c'est pharmacovigilance. En France, on est au royaume de la pharmacovigilance et tout le monde croit qu'il y a similitude entre guillemets entre pharmacoépidémie et pharmacovigilance. Erreur funeste. La pharmacoépidémie s'intéresse aux populations, ne s'intéresse généralement pas à des individus isolés, travaille avec une approche probabilistique. Est-ce que le médicament est capable d'induire tel ou tel effet? Donc c'est une mesure du risque et c'est vraiment une causalité au niveau populationnel. La pharmacovigilance est un autre univers, une autre façon de voir les choses. C'est très orienté vers des cas individuels, donc des personnes isolées, et pour lesquelles on essaie vraiment, c'est les fameuses méthodes d'imputation, on essaie vraiment de vérifier si chez Pierre, âgé de 33 ans, domicilié à tel endroit, tel médicament a causé tel effet indésirable à tel moment. Donc vous avez vraiment deux mondes très très différents et en principe complémentaires, mais qui fonctionnent de manière radicalement différente. Et effectivement, il y a quelqu'un, j'espère que vous reconnaissez tous cette photo, un monsieur moyennement sympathique, mais il a la Légion d'honneur qui lui a été remise par son ami personnel, j'ai oublié son nom, qui vous fait un grand bonjour d'outre-tombe, probablement il y a beaucoup de flammes autour de lui, mais il a beaucoup contribué à faire en sorte qu'il y ait en France cette confusion entre pharmacoépidémiologie et pharmacovigilance. C'est l'affaire du médiateur, bien évidemment, où il s'est battu comme un lion pour essayer de dire cas par cas. Il y avait des centaines de cas qui ont été rapportés au centre de pharmacovigilance, et cas par cas, il essaie de démontrer qu'il manquait une information pour être certain 100% que le médiateur avait causé des difficultés chez les gens. Donc c'est un bon exemple de la différence entre la pharmacovigilance, incarnée par le monsieur ici présent, et la pharmacoépi qui travaille au niveau populationnel et qui ne s'intéresse pas trop aux imputations cas par cas. Alors, l'adhésion thérapeutique avant le big data ou une grande solitude secrète. J'aime beaucoup Purcell, j'aime beaucoup cette musique en particulier, Oh Solitude. Et effectivement, je crois que le patient reste très seul quand il est confronté au choix de prendre ou ne pas prendre son traitement. La différence entre la période pré-big data et la période actuelle, c'est qu'à l'époque, personne ne savait s'il le prenait. Il n'y avait pas moyen de vérifier si oui ou non le patient prenait son traitement. Tandis que maintenant, les outils convergent, heureusement, malheureusement, pour avoir cette info que le patient le souhaite ou non, que la personne malade le souhaite ou non. Voilà. Donc historiquement, on parlait, vous verrez que les choses ont beaucoup changé en l'espace de 20 ans, 30 ans, on parlait d'observance, qui décrivait la manière dont les gens prennent ou ne prennent pas les prescriptions et coopèrent à leur traitement. Et donc, il y avait tout un tas de phrases effrayantes. La non-observance peut être la cause d'inefficacité ou d'une rechute de la pathologie. Elle peut être en rapport avec les contraintes du traitement ou les effets secondaires, indépendamment de la volonté du médecin, qu'il y a lieu de prévenir dans ce cas. Donc si vous aviez la mauvaise idée de ne pas prendre de traitement, il fallait se précipiter chez le médecin. Vous alliez à confesse et vous disiez, voilà, docteur, j'avoue que je ne prends pas mon traitement. Donc à l'époque, bon, il y avait une confession volontaire, mais que tout le monde ne faisait pas. Donc on a beaucoup parlé donc, des différents termes qui sont arrivés dans le domaine depuis 10 ans, 20 ans. Donc au début, c'était observance, qui est une connotation effectivement un peu religieuse. Et actuellement, le terme clé, pour info, c'est simplement ce qu'on appelle l'adhésion. Donc c'est ce qu'on appelle le suivi des recos médicales par les patients en termes de dose, d'horaire des prises, de respect des contre-indications, des précautions d'emploi, durée de traitement. Donc ça décrit simplement le fait qu'il y a en principe une instruction qui est donnée à une personne malade et la personne respecte ou ne respecte pas ses recommandations. Voilà. En alpinisme, pour ceux qui en font, il y a exactement le même contexte. Il faut respecter les règles de sécurité. En vie religieuse, a priori, quand on n'y pas l'actualité, c'est ce que traditionnellement beaucoup de religieux faisaient. Industrie nucléaire, jusqu'ici, en France, apparemment, ça ne se passe pas trop mal. Voilà. Tout ça a été très codifié il y a quelques années grâce à un projet européen qui était piloté par un remarquable chercheur. Bernard Vreyens, qui est à l'Université de Liège et qui est également la personne clé, on va dire, dans le domaine de l'adhésion au traitement. Il vient donner cours à Lyon une fois par an. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous me contactez et je m'arrangerai pour que vous soyez informés de la date à laquelle il se présente. Donc, il vient passer une après-midi pour discuter un petit peu de... Il fait un cours sur l'adhésion. Et donc Bernard a vraiment été la personne clé pour distinguer les trois grandes dimensions de l'adhésion qu'on distingue actuellement. Vous avez ce qu'on appelle l'initiation. Donc il y a le fait que vous êtes professionnel de santé, vous remettez une ordonnance à la personne en face de vous. Et il y a déjà un échange qui se fait. Il y a des informations qui sont diffusées, des questions qui sont éventuellement posées, auxquelles on répond ou on ne répond pas. Mais donc il y a déjà un échange qui se fait à ce niveau-là. Et déjà à ce niveau-là, il y a 15% des gens qui décident que sur base des informations qu'ils ont reçues, et éventuellement les premiers comprimés qu'ils prennent, n'iront pas plus loin. Ils vont tester le traitement et n'ont pas assez confiance ou n'ont pas assez d'infos pour aller beaucoup plus loin, ce qu'on appelle l'initiation. Admettons qu'ils aillent plus loin, qu'ils soient convaincus pour de bonnes ou de mauvaises raisons de continuer. Il y a ce qu'on appelle l'implémentation. L'implémentation, c'est ce qu'on appelait classiquement l'adhésion. C'est le fait que les gens prennent leur traitement tous les jours, comme il faut, un comprimé le matin, un comprimé le soir, la bonne dose, le prendre avant les repas, etc. Enfin, toutes les choses que les innombrables médecins excellent à raconter aux patients. Et la dernière dimension, c'est ce qu'on appelle la persistance. La persistance, c'est la durée de temps avant un arrêt prolongé ou définitif du traitement. Voilà. Donc, c'est vraiment trois dimensions différentes de l'adhésion thérapeutique. Et elles ont chacune des, ce qu'on appelle vulgairement des déterminants, des causes diverses. Ce n'est pas les mêmes facteurs qui jouent pour l'initiation, l'implémentation et la persistance. Peu importe, ça devient très technique, mais il y a effectivement une relation entre les trois, mais c'est des choses qu'il faut distinguer. Voilà, la prise, donc adhésion, vous avez la concordance ou l'initiation, vous avez la prise du traitement et vous avez, avec la qualité de la prise, est-ce que les gens prennent vraiment le traitement comme ils devraient au jour le jour, et vous avez ce qu'on appelle la persistance qui va vous dire si la personne... respecte la durée de prescription, la durée d'ordonnance, pardon, qui est recommandée par le médecin. Alors, les instruments de mesure qui existaient dans le bon vieux temps, avant le big data, quand nous étions tous libres et heureux, vous aviez le jugement du clinicien, auquel tout le monde recourait, qui est fast, low cost. Je crois que tout a été dit, c'est rapide et c'est pas cher. Seul souci, c'est faux. Le médecin n'a plus de chance de deviner l'adhésion de son patient que de lancer un dé, de dire voilà, a priori, je vais avoir un 6 ou je vais avoir un 5 qui sort de mon dé, etc. Donc les médecins se trompent une fois sur deux. Ils ne sont pas capables de dire si les patients sont ou non adhérents à leur traitement. Alors, il y a ce que le patient vous raconte, il y a ce que la personne malade vous raconte. Vous devinez que ce n'est pas nécessairement beaucoup plus fiable que ce que le médecin va deviner, tout simplement pour ce qu'on appelle des raisons de désir. Désirabilité, c'est comme ça qu'on dit en français, désirabilité sociale, voilà. Déjà un tout petit peu mieux ou un peu moins pire, il y a ce qu'on appelle les journaliers, où le patient remplit tous les jours le nombre de comprimés qu'il a mangé, voilà, mais a priori, c'est souvent très mal rempli, c'est rempli éventuellement pendant quelques jours, et puis ça devient n'importe quoi, donc c'est difficile à utiliser sur des périodes prolongées. Et là aussi, les gens, a priori, ont envie de vous faire plaisir, donc c'est des infos à prendre avec un certain grain de sel. Il y a ce qu'on appelle le monitorage des traitements. Donc, on va peser, on va regarder le nombre de comprimés qui restent dans le pilulier, etc. Mais rebelote, il n'est pas rare du tout. C'était bien objectivé, c'était assez amusant de voir les gens se précipiter aux toilettes juste avant la visite chez le médecin et vider leur flacon ou vider leur inhalateur dans l'asthme. Donc, vous avez une surconcentration de ventoline dans les toilettes des pneumologues. C'est très efficace, mais en attendant, voilà. Alors, vous avez ce qui est peut-être, ce qui est l'outil classiquement le plus intéressant, ce qu'on appelle les MEMS, hein, les fameux, comme disait Nicolas, les fameux capuchons mouchards, qui permettent de vérifier au jour le jour si les gens prennent leur traitement. Donc ça, c'est quelque chose qui est a priori plus... Il y a des photos, donc vous allez voir ce que c'est. Qui est assez objectif, assez exact. Mais même là, l'imagination humaine est sans limite. Donc il y a des gens qui ouvrent leur capuchon, qui vous font parfaitement plaisir en prenant le traitement au moment, en principe, voulu, mais qui vont bien éviter de l'avaler. Donc la seule façon d'être à 100% certain que la personne ait pris son traitement, c'est de faire ce qu'on appelle thérapeutique drug monitoring, c'est de faire des dosages dans le sang, dans les urines, etc., pour vérifier que la personne ait vraiment pris son traitement, ce qui est, entre parenthèses, qui a été fait très longtemps pour la tuberculose. Vous savez qu'il y a eu pas mal de problèmes de tuberculose un peu partout et que les gens qui ont une TB ne prennent pas nécessairement leur traitement avec enthousiasme. Et donc, on a trouvé tout un tas de techniques pour vérifier que les patients tuberculeux prenaient comme il le fallait leur traitement depuis l'observation de la prise. Donc, on vérifie que la personne l'avale et que, a priori, c'est vraiment avalé jusqu'à la coloration en orange des urines. Enfin, on a inventé tout un tas de techniques, entre guillemets, de surveillance des gens. Voilà. Mais l'outil de référence, c'est le fameux capuchon mouchard. Donc, c'est la petite chose qui est là en bas. C'est le petit truc blanc que vous vissez de façon très traditionnelle sur un flacon de médicaments, et puis vous mettez tout ça sur un petit compteur qui va vous dire, voilà, qui va enregistrer automatiquement les jours et les heures des prises de traitement. Donc c'est quelque chose qui vous donne ce qu'on appelle des histoires médicamenteuses qui vous permettent de suivre les prises du traitement par le patient. Donc voilà un patient en Suisse, comme je dis toujours, quelqu'un qui est extrêmement régulier, qui prend son traitement absolument tous les jours à la même heure. En France, ça n'existe pas. Il a fallu faire une photo en Suisse. Ça, c'est déjà plus français. C'est les gens qui le prennent de façon assez régulière pendant la semaine. Mais le week-end, c'est très, très dur. Parce que, bon, on a fait la fête. Et puis, on n'a pas assez envie de le manger. Voilà. Ah, ben, je suis bien d'accord. Non, non, tout à fait. C'est effrayant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. C'est qu'initialement, la personne respecte les recos. Donc, va prendre son traitement avec une certaine régularité. Et puis, bouf. Les choses se dégradent et à un certain moment, très classiquement, la personne arrête complètement. Voilà. Ça, c'est assez amusant. C'est un peu ce que je vous décrivais. C'est ce qu'on appelle la compliance à la blouse blanche. C'est le fait que les gens prennent leur traitement juste avant le rendez-vous chez le médecin. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a souvent dans les toilettes des cabinets médicaux des grands nombres de pilules, de suppositoires, enfin tout ce qu'on peut imaginer, parce que les gens ont peur. Le médecin pourrait leur demander « Montrez-moi votre plaquette de traitement, etc. » Donc, ils s'empressent de s'en débarrasser juste avant le contact médical. Voilà, c'est très, très classique et très décrit. Voilà. Ici, simplement une diapo pour vous montrer, c'est des patients suivis à Lausanne, en fait. C'est des gens qui sont hyper tendus. Michel Burnier est hypertensiologue, et donc c'est des gens qui ont un traitement antihypertenseur. Vous voyez que Michel a des effets tout à fait impressionnants sur ses patients, avant intervention, après intervention. Donc le message, c'est qu'il y a moyen de faire en sorte que les gens prennent leur traitement de façon plus régulière. Ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, entre autres, qui permet d'améliorer la qualité de la prise. Voilà. Ça, c'est simplement un tableau pour illustrer la fréquence énorme des prises incorrectes dans tout un tas de maladies chroniques. C'est des chiffres qui ont été trouvés un petit peu au hasard, mais qui sont très crédibles. Mais donc, vous voyez, hypertension, cancer, infection, épilepsie, la non-adhésion, la non-prise correcte des traitements est extrêmement fréquente. Pour l'instant, ça suscite beaucoup d'intérêt, par exemple, dans le cancer, puisqu'il y a, comme vous le savez peut-être, il y a tout un tas de chimiothérapies orales qui arrivent sur le marché, qui sont d'excellents médicaments, à condition qu'on les prenne. Si on ne les prend pas, par définition, ils n'auront pas beaucoup d'effet. Et donc, il y a des gens qui sont relâchés dans la nature, qui n'ont plus les chimios de jour qu'on avait avant. Ils sont relâchés dans la nature avec leur traitement oncologique. Et on espère qu'ils vont prendre ces traitements de façon régulière. Et là, au niveau des hospices, on avait une réunion hier. C'est panique à bord parce qu'on se rend compte que les gens ne les prennent pas. Donc, même pour un cancer, même pour une pathologie gravissime, cancer du sein, chez des femmes d'un certain âge, en post-ménopause, eh bien, il y a une adhésion qui est assez, assez mauvaise. Et par définition, là c'est un chiffre tout à fait arbitraire, il y a une grande différence d'outcome, comme on dit, une grande différence de résultat, d'évolution clinique entre les gens qui prennent leur traitement et les gens qui ne prennent pas. Ça c'est de nouveau, c'est Bernard qui a fait ça avec les collègues américains. Ils ont une grande base à Liège où ils ont regardé la persistance au traitement dans tout un tas de maladies. Et vous voyez que ce n'est pas glorieux, qu'il y a vraiment... par exemple, ici, ils ont pris un chiffre moyen, 40% des gens qui arrêtent leur traitement dans les 12 mois. Donc, c'est des traitements chroniques, c'est des choses qu'on devrait prendre, en principe, à vie. Et malgré tout, il y a énormément de gens qui les arrêtent très, très rapidement. Ça, c'est une étude que je trouve assez effrayante. On a beaucoup parlé, il y a quelques années, chez les gens qui sont séropositifs, de la résistance au traitement, du fait que ces gens qui, là aussi, sont devenus tout à fait dépendants de leur traitement, il y a apparition de résistance à certains antirétroviraux, ben l'énigme est toute simple, les gens ne les prenaient pas, c'est comme avec les antibiotiques, quand on ne prenait pas un traitement, il y a apparition de résistance. Et c'est vraiment ça qui explique la résistance au traitement antirétroviraux. Donc vous avez des patients séropositifs, des gens qui a priori ont un pronostic assez réservé, sauf s'ils prennent leur traitement avec une immense régularité, et bouf, ils arrêtent de le prendre. Et donc il y a une relation entre la qualité de la prise et le pourcentage de rechute. Donc c'est, voilà un bel exemple de... Un autre exemple tout aussi effrayant, je n'ai pas les pires diapos, c'est la greffe rénale, il y a des diapos en greffe cardiaque, encore un peu pire que celle-ci si c'est possible, où on voit vraiment la différence qu'il y a entre des gens qui prennent leur traitement et des gens qui ne le prennent pas. Ici vous avez un rejet de la greffe rénale, et c'est quand même pas de la tarte d'avoir une greffe rénale, et vous avez pas mal de gens qui ont un rejet de la greffe rénale tout simplement parce qu'au cours des premiers jours qui ont suivi la greffe, ils n'ont pas pris leur traitement de façon correcte. Voilà. Les exemples peuvent se multiplier à l'infini dans toutes les maladies. Voilà. Simplement un rappel, il faut quand même être très nuancé, très prudent quand on étudie l'adhésion. Il y a tout un tas de déterminants, comme on dit, qui peuvent expliquer l'adhésion. Il y a le système de santé, le remboursement, non-remboursement, etc. Il y a les facteurs liés à la maladie, c'est pas la même chose d'être adhérent dans un cancer et d'être adhérent dans une migraine. Il y a les facteurs socio-économiques, donc ce qu'on appelle le reste à charge du patient, qui est quelque chose qui est malheureusement, qui nous pend au nez pour les années qui viennent. Il y aura un reste à charge du patient qui sera de plus en plus important et qui va certainement entraîner un frein à la prise des traitements. Il y a des facteurs qui sont liés au traitement, d'habitude on met un peu le focus là-dessus, le traitement ou le malade, mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'équation. Par exemple, le fait que le traitement, on le verra, a des effets indésirables, donc les gens n'aiment pas des traitements avec des effets indésirables. Et les facteurs liés aux patients. Et donc, classiquement, vous interrogez mes chers confrères, ils vont tous vous dire, la bouche en cœur, la non-adhésion est un problème qui vient du malade. C'est le malade qui n'a pas compris, qui est un imbécile, qui ne suit pas mes recommandations. Donc, par définition, tout est la faute du malade. Voilà. Pourquoi ? Pour lancer un tout petit peu la discussion pour tout à l'heure, pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas leur traitement, ouvrons-nous un tout petit peu l'esprit. Il y a tout simplement, pour des raisons involontaires, le fait que les gens oublient. Il y a vraiment des oublis réels de prise de traitement. Le fait que la communication médecin-malade est inefficace, c'est de mauvaise qualité. Par exemple, le malade n'a pas compris que même après l'arrêt des symptômes, il fallait poursuivre le traitement. Dans l'asthme, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Par exemple, le fait que les gens ne peuvent pas se permettre de les acheter. Et puis, il y a tout un tas de raisons que les personnes peuvent parfaitement vous exprimer, à condition qu'on les écoute. Il y a le fait qu'il y ait une volonté d'épargne, par exemple. Beaucoup de gens vous diront, moi, je le prends un jour sur deux parce que le médicament est cher et je me dis qu'un jour sur deux, c'est pas mal. Il y a la peur de dépendance. Beaucoup de gens expriment une crainte d'être dépendant du traitement. Les gens ne ressentent plus nécessairement le besoin. Les gens perçoivent ce qu'on appelle un mauvais rapport bénéfice-risque, donc on a l'impression qu'il y a des effets secondaires qui sont plus importants que les bénéfices apportés par le médicament, etc. Et puis tout un tas de facteurs dits émotionnels, les croyances, les méfiances, l'environnement. Moi, j'avais travaillé un moment dans un service de dialyse et nous avions, c'était une hécatombe au moment du ramadan, parce qu'au moment du ramadan, pour des raisons sociales, les dames que nous avions en dialyse, donc des dames qui n'allaient pas bien du tout, qui étaient en insuffisance rénale terminale, arrêtaient de prendre leur traitement pendant la période du ramadan parce qu'il y avait une pression sociale énorme et qu'elles n'osaient donc pas prendre, boire en cours de journée. On leur disait, vous savez, il n'est écrit nulle part dans le Coran qu'on doit arrêter son traitement durant le ramadan. A priori, votre santé prime tout. Impossible. C'était un dialogue de sourds. Il n'y a pas moyen de faire passer le message. Voilà. Ça, c'est quand même une étude très intéressante pour vous illustrer que le malade n'est pas responsable de toute la misère du monde. Donc, le prescripteur donne le nom spécifique du traitement dans trois quarts des ordonnances, mais donc dans un quart, il ne donne pas le nom. Il n'explique pas toujours le but du traitement, donc il ne dit pas pourquoi vous devez prendre ce traitement. Il n'explique qu'à peu près 50% des gens le nombre de comprimés à prendre et la posologie, donc le matin, le soir, etc., que dans aussi un bon 50% des cas. Il n'explique la durée du traitement que dans un tiers des cas. Donc dans deux tiers des cas, les gens n'ont pas l'info sur la durée du traitement. Et dans deux tiers des cas, la survenue possible d'effets secondaires n'est pas mentionnée. Donc les gens ne savent pas que le traitement peut induire tel ou tel souci. Voilà. Est-ce qu'il y a des explications apparemment rationnelles de la non-adhésion ? de façon systématique, on retrouve l'effet l'impact des effets secondaires. Et puis, on a des préférences exprimées par les gens qui changent avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience. Donc là, il y a une équation qui a été développée par une collègue anglaise. C'est la perception de l'efficacité du traitement, les effets indésirables, la facilité à prendre le traitement, le stigma, le stigmatisme, on dit, stigmatisme social, les symptômes, la peur de rechute, le coût, la relation avec le clinicien, le sexe, le genre, donc qui a un impact énorme. On voit toujours la différence entre hommes et femmes dans les études sur l'adhésion. L'âge, là aussi, c'est très variable, les revenus, etc. Donc vous voyez que c'est une équation complexe, mais on commence à connaître certains termes de l'équation. Voilà. Et il est également possible de changer le comportement de la personne malade. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Il y a moyen d'avoir des inflexions, des modifications du comportement qui permettent, entre guillemets, d'améliorer la qualité de la prise. Donc c'est des choses qui se mettent en place aussi, qui commencent à être bien étudiées et bien connues. Voilà. Donc en résumé, prendre ou ne pas prendre un traitement, c'est un choix individuel, généralement subjectif. Il est extrêmement rare que les gens aient l'ensemble des infos nécessaires au moment de prendre ce choix, de faire cette décision. Et traditionnellement, c'est quelque chose de très secret. Il y a peu de gens qui rentrent dans la cervelle de la personne qui prend ses traitements. Et personne ne sait exactement ce qui se passe. Et comme le dit très bien la diapo, quand les doutes s'installent, il faut faire certains choix. Le problème, c'est que ce choix est parfois fondé sur des infos inexactes. Beaucoup de gens qui prennent la décision d'arrêter leur traitement le font pour des raisons qui ne sont pas des raisons très rationnelles, on va dire. Ce choix peut avoir des conséquences. Ces conséquences sont parfois très positives. Si on vous a donné du Mediator, vous arrêtez de le prendre. Mon Dieu, c'est une excellente nouvelle. Vous allez peut-être échapper à tout un cortège de complications. C'est parfois négatif, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les chimiothérapies orales dans le cancer, c'est extrêmement regrettable de ne pas les prendre. C'est une perte de chance et c'est un impact direct sur votre survie. Ce choix est de moins en moins secret, donc ça c'est peut-être l'impact, ou même sûrement l'impact du big data il y a 10 ans, 20 ans, sauf si on mettait les gens en possession d'un appareillage lourd et complexe comme les mouchards, personne ne savait exactement ce qui se passait. Maintenant avec le big data on commence à avoir des infos qui sont accessibles à tout le monde, à partir de la salle de commande, je ne sais pas comment on dit. Voilà, et ce choix devient de moins en moins individuel, tout simplement parce qu'on est à une époque de restriction des sous, il n'y a plus de sous dans les caisses, et la sécurité sociale couine autant qu'elle peut en regrettant, entre guillemets, le gaspillage qui est fait de ces deniers publics. Voilà. Il y a toute une controverse récente sur ce qu'on appelle les CPAP. Les CPAP, c'est ces lourdes machines qu'on installe chez les gens qui sont en apnée du sommeil. Et l'assurance maladie avait décidé de ne plus le rembourser chez les gens qui avaient un taux de suivi incorrect. Bien entendu, mes chers confrères sont montés au créneau, on est passé en Conseil d'État, etc., qui a inversé la décision de l'assurance maladie. Donc maintenant, ce n'est plus vrai. Mais enfin, il y a au moins le mérite d'avoir un petit débat qui a été lancé à ce niveau-là sur la prise en charge ou non par la collectivité d'un produit lorsqu'il n'est pas pris de manière correcte ou idéale. Voilà. L'arrivée du big data. Donc ça, c'est, j'aime bien ce petit dessin. Là, vous avez 23% de chance d'être le bienvenu ici en Europe après avoir vu vos achats sur Amazon, vos scores tweets et vos voyages. Donc, les bases de données en santé sont arrivées en deux temps, on va dire. Depuis une vingtaine d'années, 25 ans, il y a ce qu'on appelle les dossiers médicaux électroniques qui sont implantés un peu partout. En France, il y en avait deux, et puis la logique capitalistique étant ce qu'elle est, il y a le gros qui a mangé le petit, il n'en reste qu'un depuis le 1er avril, qui est une immense société américaine qui s'appelle IMS, qui possède un monstrueux réseau de bases un peu partout dans le monde, qui est quasiment monopolistique, qui sont des dossiers médicaux électroniques. Donc vous allez chez votre médecin généraliste, il enregistre tout ce qu'il fait sur un dossier électronique et tout ça se retrouve dans une base centrale à Paris qui donne accès à des infos sur des millions de personnes. Donc c'est intéressant essentiellement pour des raisons de diagnostic. Le généraliste a fait un diagnostic, donc vous avez accès à ce diagnostic. Et puis vous avez les bases de l'assurance maladie, dites bases de données médico-administratives, pour utiliser le jargon officiel, qui s'appelle le SNIRAM, dont vous entendrez de plus en plus parler, je crois, dans les années qui viennent, le SNIRAM. Donc le principe, c'est très simple. Oui, pardon, je vous en prie.
Vous avez dit que les dossiers médicaux des médecins généralistes étaient reliés à une base dans laquelle ils enregistraient des informations nominatives.
Des informations nominatives, mais qui sont anonymisées et qu'ils vendent à qui le veut. Donc vous achetez un échantillon de ces données à une société, en l'occurrence maintenant c'est la société IMS, à la Défense à Paris. Vous lui dites, voilà, moi j'aimerais toutes les personnes que tu me donnes, une extraction de toutes les personnes traitées pour diabète dans ta base. Et moyennant la modique somme de 150 000 euros, trois semaines plus tard, vous allez recevoir un énorme disque dur externe contenant toutes les données de médecine générale des, je sais pas moi, 350 000 personnes traitées pour diabète. Vous allez recevoir tout ça chez vous à Lyon, de manière anonymisée. Donc vous n'avez pas la possibilité de retourner à l'identité du généraliste ni de la personne malade, mais vous avez des histoires individuelles. Donc vous savez que A, B ou C fréquentent tel généraliste depuis très longtemps, et voilà toute l'histoire médicale individuelle de cette personne chaque fois qu'il va visiter son généraliste. Donc vous avez 6 visites par an, 10 visites par an, autant de diagnostics, autant de traitements, etc. C'est très utilisé par l'industrie pour faire ce qu'on appelle des études marketing, des études de part de marché, etc. Enfin, voilà. Et les labos essayent de comprendre ce qui fait qu'un médicament est prescrit ou n'est pas prescrit. Donc c'est leur outil de base, entre guillemets, pour comprendre ce qui fait qu'un médicament est prescrit. Voilà, c'est très marketing, comme on dit. Donc l'assurance maladie rassemble tout un tas de feuilles de soins, tout un tas de référentiels des assurés. Donc c'est vraiment un outil à visée comptable, il faut vraiment garder ça en tête quand on parle de ces bases SNIRAM. Il y a des contrôles qui sont faits, il y a un contrôle de qualité qui est fait, il y a une anonymisation des données qui sont faites, hein, pas confondre les données personnelles, individuelles et le caractère anonyme. Donc il y a une anonymisation qui est faite et tout ça se retrouve dans la base du SNIRAM en Haute-Normandie, qui contient donc absolument tout ce qui est remboursé en France en matière de consommation de soins. Donc vous avez tous les séjours hospitaliers, ce qu'on appelle le PMSI, pour ceux qui ont entendu parler, toute l'offre de soins libérale, toutes les visites chez des médecins en médecine de ville, toute la biologie, toute la pharmacie. Donc tout ce qui est remboursé, à minima 1% de remboursement par l'assurance maladie, vous avez automatiquement ces données qui sont enregistrées dans ces énormes bases de l'assurance maladie qui couvrent actuellement, on est à 90% de la population française. Donc on a la plus grosse base au monde. On a en France une base de 50 millions de personnes qui est une base absolument monstrueuse, qui est extrêmement bien faite, très structurée, très très bien faite, tout simplement parce qu'elle est à visée comptable et que donc ils ont fait des efforts désespérés pour avoir des chiffres fiables. Pardon. Pour rembourser médecins, pharmaciens, cliniques, etc. Donc c'est un outil vraiment très très complet. C'est une exhaustivité de la consommation de soins française. Voilà, donc rebelote, vous avez tout ce qui est biologie, transport, indemnité journalière, enfin absolument tout y est. Plein d'infos sur la personne assurée, sur les médecins, sur les pharmaciens, sur les actes médicaux, sur la biologie. Plein d'infos sur les médicaments, c'est ça qui intéresse bien entendu les gens qui bossent autour du médicament. Plein d'infos sur les hospitalisations, donc vraiment toute la consommation de soins qui est remboursée en France. Donc c'est vraiment tout à fait exhaustif et tout à fait remarquable, parce que c'est un outil qui n'a pas été facile à créer, à développer. Par contre, les conditions d'accès sont complexes et difficiles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de rouge sur cette diapo, tout simplement parce qu'il y a volonté, il y a eu volonté délibérée d'emblée. Ces données sont accessibles depuis à peu près 2009 aux gens qui ne sont pas à l'assurance maladie. Donc en dehors de l'assurance maladie, c'est accessible depuis 2009 avec énormément de restrictions. Et le principe, c'est vraiment que ce n'est accessible qu'aux chercheurs du secteur public. Il est impossible pour une société à but lucratif d'accéder directement à ces informations. Et selon le type de données que vous voulez, il y a ce qu'on appelle la base échantillon qui fait 1% de la population française, qui est relativement facile d'accès. Mais de plus en plus de gens s'intéressent à ce qu'on appelle les extractions spécifiques. Là, on a travaillé sur l'asthme du nourrisson qui touche à peu près 300 000 enfants en France. Donc on a reçu une extraction de 700 000 enfants de 0 à 2 ans on avait la quasi-intégralité des enfants français qui avaient reçu un médicament pour des problèmes respiratoires au cours d'une année donnée. Donc vous voyez, on atteint vraiment des chiffres colossaux. On travaille sur des bases de 700 000 personnes. On a fait une autre étude dans les problèmes de lipides. On avait 300 000 personnes, etc. Donc on atteint vraiment des échantillons gigantesques. Donc c'est vraiment des outils complexes, des outils qui sont très surveillés. Il y a une traçabilité des accès, il faut vraiment montrer patte blanche. Et toujours, c'est difficile à utiliser tout simplement parce que c'est des outils comptables et pas des outils de recherche. Donc on a chez nous, il y a des gens qui bossent là-dessus. La personne qui gère un peu l'équipe est là depuis 3 ans et elle commence vraiment à être très efficace. Elle n'était pas avant. Pardon, oui. Oui. C'est organisé au niveau national. Donc vous avez une base nationale. Vous pouvez très bien avoir la région Rhône-Alpes. Il n'y a pas de souci. Vous dites spécifiquement la région Rhône-Alpes. Oui, mais là vous êtes tributaire. Vous prenez un exemple en Quiquinan. Parce que vous prenez les ALD qui sont codés de manière parfois un peu discutable. Donc il y a ici à Lyon, il y a Anne-Marie Schott qui a beaucoup bossé là-dessus, les ALD en cancer, et qui s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de, comment on dit, misdiagnosis, de diagnostics erronés. Donc c'est des données d'une fiabilité imparfaite, on va dire. Voilà. C'est un des rares outils qu'on ait, mais ça ne vaut pas les registres de cancer, par exemple. Vous avez des registres de cancer qui commencent à se développer un peu partout, qui sont des outils intéressants, de très bonne qualité. Le nombre est beaucoup plus restreint, mais la qualité est meilleure. Ces bases nationales ont l'intérêt du très grand nombre. Ce qu'on fait, en simplifiant, en commandant des nombres énormes de personnes, on restreint à des échantillons de plus en plus spécifiques, de plus en plus valides. Et là, on est relativement... Vous partez de 300 000 et vous arrivez à 3 000. Vous verrez tout à l'heure des chiffres que je vous donne. Sur ces 3 000-là, vous êtes certain de la qualité du diagnostic et de la LD. Et là, vous pouvez commencer à faire des choses. Mais il est difficile de travailler sur l'échantillon national avec une totale confiance. On va dire les choses comme ça. Oui. Ils ont tout. Ils ont toutes les infos. Ils ont votre domicile, ils ont votre numéro de téléphone, ils ont l'appel minéralogique de votre voiture, ils ont absolument tout. Mais ce n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'il y a énormément là-dedans de données dites sensibles. Il y a d'énormes précautions qui sont prises sur le plan informatique, entre autres, pour ne pas avoir de croisement de données sensibles, pour éviter qu'on puisse retomber sur une personne donnée. Donc si par exemple la personne vit dans un village de moins de 500 habitants, n'importe quoi, et qu'elle a une maladie très particulière, VIH, il serait impossible de l'identifier. Ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas avoir de recoupement de données sensibles pour éviter une identification potentielle des gens. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que les scientifiques fous aiment le big data malgré les grandes difficultés d'accès d'utilisation? Tout simplement parce qu'on a un très grand nombre de personnes. Il ne faut pas recueillir des données, il ne faut pas trouver des gens. C'est des données qui préexistent à l'étude. Ça, pour nous, en épidémiologie, c'est extrêmement intéressant parce que, par exemple, on n'a pas ce qu'on appelle le biais de mémorisation, qui est l'écueil sur lequel beaucoup de bateaux épidémiologiques vont s'échouer. On n'a pas le terrible biais de mémorisation qui complique très fort l'interprétation et la qualité des études de terrain. C'est des données qui ont été enregistrées avant que nous posiez l'hypothèse. Mediator, c'est des choses qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, voilà, avant que l'horrible Servier n'apparaisse à l'avant-plan. Vous avez toute l'info sur les soins remboursés, la consommation de soins médicaux, et vous avez une parfaite représentativité de la population assurée. Voilà. Donc, on est extrêmement heureux de pouvoir utiliser cette base. Voilà le valeureux pharmaco-épidémiologiste poursuivant son rêve d'une base parfaite. Vous voyez, ma quête n'a pas de fin. Voilà. Et donc, quelques mots maintenant sur la dernière partie, qui est l'adhésion à l'ère du big data, ou la solitude moins secrète. On va beaucoup parler de ma maladie préférée, qui est l'asthme. L'asthme, c'est quoi? C'est une très curieuse maladie. Ça va, ça vient, on est au bord de la mort, et puis on se porte comme le bon neuf. C'est extraordinairement fluctuant, et fluctuant dans les deux extrêmes. Vous êtes à l'eau. Vraiment à deux doigts de mourir, et puis 3 jours plus tard, vous allez parfaitement bien. Et donc, ce qui est très frappant dans l'asthme, c'est la manière dont les gens prennent leur traitement. Parfois, ils le prennent très bien, et puis ils ne le prennent plus du tout. Voilà, donc c'est un très très beau modèle pour étudier l'adhésion, essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, et de façon générale, dans le système d'organisation des soins, parce qu'il y a beaucoup de soucis. Et donc, il y a plein d'études que nous avons faites, mais que des collègues parisiens ont faites aussi. Ça, c'est des études de terrain. On a vraiment essayé de comprendre, par des questionnaires spécifiques adressés aux gens, adressés aux médecins, de vraiment comprendre ce qui se passait. Et donc là, par exemple, une étude qu'on a faite il y a quelques années, un tiers des personnes asthmatiques vous déclarent qu'ils arrêtent délibérément leur traitement. Un quart vous disent qu'ils l'oublient. Et donc, on a fait une relation entre ces déclarations et l'évolution péjorative de l'asthme. Il y a une relation très étroite. Rebelote avec une autre étude qui a été faite par un collègue parisien. Deux tiers des gens déclarent oublier leur traitement. Deux tiers des gens déclarent avoir des problèmes de compréhension de leur traitement. La moitié déclare ne pas prendre les doses de manière efficace. Et la moitié ne se sent pas capable d'utiliser correctement leur dispositif d'inhalation. Voilà, tout simplement, c'est vraiment des infos qui convergent. Une autre étude qu'on vient de finir, un cas d'interruption délibérée et plus de 20% de changement spontané des doses. Donc vous voyez que dans l'asthme, il se passe des drôles de choses avec les traitements. Effectivement, donc les gens ne prennent pas leur traitement de façon très régulière, ils le prennent vraiment quand ils sont symptomatiques, quand ça ne va pas bien. Il y a vraiment ce dogme-là, entre guillemets, « no symptoms, no asthma ». Ils ne ressentent rien, ils estiment qu'ils n'ont plus d'asthme, ils arrêtent de prendre leur traitement. Donc la qualité de la prise n'est pas bonne. Les inhalateurs sont mal utilisés et il y a en plus très probablement, ça c'est des infos qu'on a par des études en médecine générale, une prescription inadéquate des traitements, les malades sont mal informés et le suivi médical est tout à fait inadéquat. Donc c'est une maladie un peu orpheline pour moi, alors que l'asthme est quelque chose d'extrêmement fréquent. On estime qu'il y a 5 à 6% de la population française qui souffre d'asthme, donc ce n'est pas bénin, ce n'est pas rare, mais malgré ça... Ça n'est pas pris en charge de manière correcte. Donc, il y a clairement un besoin d'éducation des gens, comprendre la maladie, comprendre les traitements, comprendre les inhalateurs, et ce qu'on appelle le PAP, c'est un mot que j'aime bien, plan d'action personnalisé. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre les gens autonomes par rapport à leur maladie. C'est ce que moi, j'essaie de faire à l'hôpital de la Croix-Rousse. On essaie de les rendre autonomes par rapport à ce qu'on appelle une gestion efficace et intelligente de leur maladie, en se servant de ce qu'on appelle un peak flow, donc pour vérifier comment vont les bronches et puis adapter leur traitement en fonction du peak flow. Et donc, la bonne assurance maladie nous a demandé de faire une étude d'essayer d'identifier des marqueurs, entre guillemets, c'est un peu ce qu'on disait, là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet, des marqueurs de situations à risque, ou des situations à risque de prise en charge inadéquate de l'asthme. Donc, en théorie, dans l'asthme, vous avez compris, il faut prendre sa cortisone inhalée de manière très régulière. Et l'assurance maladie souhaite avoir des indicateurs qui permettent de repérer des profils de prise en charge à risque d'évolution défavorable. Donc, c'est vraiment la mission qu'on a reçue. Eric essaye de nous identifier dans nos bases des situations qui, éventuellement... signale que le patient est à risque d'avoir une évolution défavorable de sa maladie. Voilà. Alors, c'est assez technique. Je vais essayer de ne pas vous encombrer avec trop de détails. Donc, on a fait ce qu'on appelle une cohorte historique. On a étudié des gens qui avaient des traitements à 3 trimestres. On a travaillé de manière très classique. On a une période d'inclusion, une période d'évaluation de la sévérité, une période d'étude. Et donc, notre critère de jugement, ce qui nous intéressait premièrement, c'était les gens qui sont hospitalisés pour asthme en 2008. Voilà. Et donc, on a copié ce qui a été fait par d'excellents collègues américains qui ont fait du très, très bon boulot en Californie, qui est de faire un calcul des ratios. Les ratios, c'est simplement le nombre de boîtes. C'est bête comme chou. Vous regardez le nombre de boîtes de cortisone divisé par l'ensemble des boîtes de traitement et puis vous discrétisez ça en 3 classes. Il y a les gens qui ont un ratio égal à 0, donc ils ne reçoivent pas de cortisone. Il y a les gens qui ont ce qu'on appelle un ratio bas. Moins d'une boîte sur deux contient de la cortisone. Un ratio élevé, c'est plus d'une boîte sur deux. Et donc on a regardé les gens qui étaient hospitalisés. Voilà, ça vous montre déjà un tout petit peu. Donc l'EGB, au départ, c'était à l'époque 550 000 personnes et on se retrouve avec un bon 2000 personnes. Donc les effectifs ont fondu comme neige au soleil, tout simplement parce que, c'est un peu ce qu'on disait, il n'y a pas de diagnostic dans ces bases. Et donc si on veut travailler sur une population valide, reproductive, comme on dit en épidémiologie, on doit vraiment avoir des critères très très stricts et donc la population fond très vite. Échantillon généraliste des bénéficiaires. C'est un extrait 1% du SNERAM qui est. Ils ont simplifié, entre guillemets, les variables, les accès, les requêtes, etc., pour le rendre accessible aux chercheurs. Voilà, donc on avait 2000 personnes, 30 ans, une majorité de femmes, 1% d'hospitalisation, voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu ceci, c'est-à-dire qu'on a vu que les gens qui ont ce qu'on appelle un ratio bas avaient beaucoup plus d'hospitalisation que les gens qui avaient un ratio élevé. Donc on a confirmé un petit peu ce qui a été fait par les collègues américains. Les gens qui ont donc une majorité de cortisone dans l'ensemble des traitements qu'ils vont acheter en pharmacie sont des gens qui manifestement ont une évolution de l'asthme qui est beaucoup plus favorable que ceux qui prennent moins de cortisone ou moins régulièrement de cortisone. Voilà. Et donc en fait, on a revérifié, c'est parce que ça, on tombe rarement sur les chiffres pareils quand on fait des études épidémiologiques, donc on a revérifié ça sur... De tous les côtés, on a regardé avec d'autres critères de jugement, la prise de cortisone, la prise d'antibiotiques, les hospitalisations pour asthme avec diac principal ou associé, etc. Et tout concorde. Donc on a vraiment quelque chose qui est solide, qui est robuste et qui est vraiment très, très intéressant. Voilà. Donc ce ratio est quelque chose d'intéressant qui permet, les mots sont importants, qui permet d'identifier dans les bases de l'assurance maladie ou dans une pratique de généraliste, les personnes asthmatiques qui ont une prise en charge potentiellement problématique. Donc on peut identifier a priori, vous avez l'ensemble des infos dans des dossiers médicaux informatisés de généralistes, vous avez l'ensemble des personnes traitées pour asthme, dans les bases de l'assurance maladie rebelote, vous identifiez les gens traités pour asthme, vous êtes capable à partir de cet outil très simple de dire voilà, il y a là une population qui est exposée à un sur-risque d'évolution négative, péjorative de leur maladie. Ok ? C'est quand même, c'est intéressant. Maintenant, on discutera de ce qu'il faut en faire ou ne pas en faire, mais voilà.
Et en pratique,
les résultats sont assez frais. L'article est sorti il y a 3 mois. Donc on est au début de la diffusion des résultats et là on essaie de... L'idéal serait de faire une étude interventionnelle. Moi j'aimerais bien faire une étude interventionnelle pour vérifier ça. Si. Vous allez voir, il y a des infos complémentaires qui arrivent. Sur les bases de l'assurance maladie, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils n'ont pas été cherchés en pharmacie les traitements. Il n'est pas possible sur ces seules bases de dire si les traitements n'ont pas été prescrits, si la personne n'a pas... On ne le sait pas. Vous n'avez pas l'info dans les bases. Voilà, tout est possible. On n'en sait rien. On ne sait pas si c'est, entre guillemets, la faute à Paul ou la faute à Jacques. On ne sait pas si la faute au médecin ou la faute au... Tout ce qu'on voit, c'est qu'ils n'ont pas assez de cortisone pour la gravité de leur asthme. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses. Voilà. Ça, c'est une étude de validation. Donc, on avait fait des études en officine où on avait posé plein de questions aux gens. Et donc, on voit qu'effectivement, les gens qui ont ce mauvais ratio, ce ratio bas, sont également des gens qui ont, vous voyez, c'est quand même intéressant, qui ont tout un tas de soucis. C'est des gens qui sont mal contrôlés pour leur asthme. C'est des gens qui se réveillent souvent la nuit. C'est des gens qui perçoivent l'asthme comme un souci majeur ou un handicap. C'est des gens qui ont l'impression que les traitements induisent des effets secondaires. Donc on a quand même eu beaucoup, beaucoup d'infos par cette étude en pharmacie. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on a pu valider ces ratios à partir d'enquêtes de terrain d'officine. Là, on revient à ce qu'on disait là tout de suite. Donc on a fait la même chose sur des bases de données de prescription en médecine générale, et c'est assez amusant parce qu'on l'a fait dans 3 pays européens. Parce que mon hypothèse, c'est que l'asthme, quelle que soit l'organisation du système de soins, l'autonomie du patient est tellement prédominante dans l'évolution de l'asthme que vous soyez en Turquie, en France, en Ouzbékistan, vous aurez exactement les mêmes soucis. Est-ce que les gens prennent ou ne prennent pas les traitements qu'ils devraient prendre ? Voilà, donc on a des résultats tout à fait comparables. Et donc, il y a des arguments pour supposer, entre guillemets, soyons prudents dans les mots, un partage des responsabilités entre médecins, donc une prescription inadaptée, des explications insuffisantes et les malades, ce qu'on appelle une autonomie mal gérée quant à l'irrégularité des prises de traitement de fond. Donc, l'asthmatique est exposé à un sur-risque de dégradation de son asthme avec des conséquences médicales. Bon, parfois, c'est ce qu'on appelle une exacerbation. La personne ne va pas bien pendant une semaine, 2 semaines. Parfois, il est hospitalisé, parfois, il décède. Donc, les asthmatiques qui décèdent, une très grosse partie des asthmatiques qui décèdent, en France, on a à peu près 1300 par an. On estime qu'au moins la moitié de ces décès sont imputables à une mauvaise adhésion au traitement, ce qui est quand même beaucoup. Ça fait 600 morts évitables. Et donc, des conséquences financières pour le payeur, l'assurance maladie, qui se plaint, à juste titre, probablement, de ne plus avoir de sous. Voilà. Prudence dans la suite. Donc, ça, c'est simplement une autre étude qui vient de finir, il y a 15 jours, donc c'est tout frais. On avait regardé les adhésions au traitement, toujours dans les mêmes bases, hein, dans les bases de l'assurance maladie, donc ce qu'on appelle le taux de couverture, qui vous donne une idée de la prise au jour le jour des traitements, et puis la persistance, donc le moment où les gens arrêtent leur traitement. Donc, on avait pris une cohorte de personnes supposées asthmatiques qu'on avait suivies pendant un an. Donc, vous voyez, rebelote, on a des effectifs, on a 150 000 personnes qui prennent au moins une fois ce genre de traitement, et on finit avec 6 000 personnes qui sont vraiment exploitables pour les données qui nous intéressent. Donc, on a une fonte énorme, il faut être très prudent dans l'extrapolation, la généralisation des résultats. Donc là, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un taux de couverture, un CMA, c'est équivalent à un taux de couverture moyen de 50%. Donc quand vous regardez les gens qui ont de l'asthme, vous regardez la prise des traitements au jour le jour, en moyenne, ils en prennent un jour sur deux. C'est un peu ça que ça veut dire, où ils prennent la moitié des doses qu'ils devraient prendre. Voilà. Ce qui est quand même interpellant. Et donc, en médecine, on aime bien avoir un seuil, une valeur seuil. On voudrait que les gens aient un CMA, un taux de couverture de 80%. Il y a toujours ce chiffre magique, il faut que les gens prennent 80% des traitements qui leur sont prescrits, etc. Et ici, on n'avait qu'un quart des gens qui avaient vraiment ce chiffre, cet objectif qui était atteint. Vous voyez aussi, moi c'est des choses qui me désespèrent toujours, que les dames ont un taux de couverture, on retrouve ça dans presque toutes les maladies qu'on étudie. Les dames ont un taux de couverture qui est moins bon que les hommes. Et par contre, les enfants ont un taux de couverture qui est quand même meilleur. Voilà. Un grand classique.
C'est intéressant,
parce qu'en
général, c'est les mamans qui
ont oui, tout à fait. Et donc ça, c'était pour la persistance. Donc rebelote, là, on a perdu encore un peu plus de patients. On s'est retrouvé avec un bon 700 patients. Également, donc suivi pendant un an, étudié pendant un an. Et là, vous aviez des chiffres qui sont impressionnants. On ne s'attendait pas à ça, parce qu'on a vraiment pris les asthmatiques les plus purs, les plus identifiables qui soient. Donc on s'attendait à un excellent taux de persistance. Et ici, c'est des chiffres de non-persistance. C'est pas les chiffres de persistance, c'est la non-persistance à 12 mois. Donc vous voyez que les enfants ont une non-persistance de 70%. Donc il y a 30% des enfants qui prennent leur traitement un an, alors qu'ils devraient le prendre en continu. Les ados, c'est ce qu'il y a de pire, hein, toujours. On est à 17%. Et là, les dames se distinguent de nouveau. Elles ont le meilleur chiffre, entre guillemets, pour les corticoïdes, pour la cortisone par voie inhalée. 90% des dames arrêtent leur traitement avant un an. Voilà, donc on a des chiffres qui sont, en moyenne, on est à 90%. Donc il y a 20% des gens qui prennent leur traitement pendant la période d'un an, ce qui est extrêmement peu. Voilà, donc on a une population très sélectionnée. Donc la réalité est probablement très, très pire que ça. Il n'y a pas d'ajustement, et donc on voit des chiffres qui sont vraiment, vous l'avez vu, très inquiétants. Voilà. Donc quelques conclusions, et puis j'arrêterai de parler, j'en ai dit beaucoup. Donc oui, nous faisons tous des choix, prendre ou ne pas prendre le traitement. Oui, ces choix sont souvent solitaires. On a un système de santé, une organisation des soins qui fait que les gens sont très mal informés. Il y a Internet, il y a tout un tas d'outils, mais les coiffeuses continuent à jouer un rôle très important dans l'éducation sanitaire des gens, trop important, avec un système qui est épouvantablement, vraiment je le crois très fort, qui est épouvantablement et sottement médico-centrique. Ça, c'est vraiment une caractéristique du système français. Avec des choix qui ont des conséquences parfois bénéfiques, quand les gens prennent le Mediator, mais malheureusement, les gens qui prennent le Mediator sont motivés pour le prendre parce qu'ils sont en surpoids et qu'ils sont convaincus qu'ils doivent perdre du poids, donc les pauvres le prennent et finissent par avoir des effets secondaires, mais très souvent néfastes. C'est une perte de chance. Quand vous avez une dame qui a un cancer du sein et qu'on libère l'hôpital pour qu'elle prenne son traitement en ambulatoire, c'est dramatique de voir qu'elle ne le prend pas et qu'elle est à risque de rechute. Voilà, et possiblement coûteuse. Il est évident que si les gens sont réhospitalisés, ça coûte cher à la Sécu. Donc non, nos choix ne sont plus secrets. Donc ça, c'est une grande évolution. En 10 ans, 20 ans, sans faire de technologie très compliquée, maintenant, on peut bien voir si une personne prend ou ne prend pas son traitement de manière régulière. La Sécurité sociale, c'est absolument tout sur vous. Et ces choix, non, effectivement, ils ne sont pas anodins, que ce soit pour nous-mêmes ou pour la collectivité. Donc il y a quand même eu ce vaste débat autour du médiator. L'assurance maladie voyait que des choses se passaient avec le médiator. Elle voyait que le médiator n'était pas utilisé pour le diabète ou les troubles lipidiques, mais qu'il était très majoritairement utilisé pour autre chose. Et rien n'a été fait. On n'a pas levé la main. On a laissé les gens être traités un peu n'importe comment, avec l'excuse de croire peut-être à l'époque qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, mais les gens qui voulaient le savoir le savaient. Donc il y a non-assistance potentielle à personne en danger et il y a un gaspillage d'argent qui est non négligeable. Voilà, et ça c'est notre belle ville de Lyon. Je crois que j'ai tout dit.